Les extraterrestres. Irène, vous souvenez-vous du regard amusé, de l'éclat de malice que j'ai pu lire dans vos yeux lorsque nous avons ensemble abordé l'idée de programmer cette émission sur ce sujet pour le moins improbable?
Eh bien écoutez, je suis heureuse que vous en reconnaissiez une partie de la paternité, parce que c'est vrai que c'est au fond un projet commun, et que moi l'idée de m'aventurer dans ce territoire que je connaissais si peu m'a effectivement comblée de joie et de plaisir anticipé, et j'avoue que pour l'instant je reste sur cette position.
Oui, alors sourire et malice, mais j'imagine qu'autour de vous, lorsque vous avez commencé votre enquête sur ce terrain d'exploration hasardeux, les réactions furent nombreuses. Mais ce qui m'intrigue le plus, au-delà des réactions de pauvres terriens incrédules et rationalistes que nous sommes, c'est plutôt de savoir comment vous y êtes pris pour rentrer en contact avec tous ces témoins qui, eux, ont fait des rencontres d'un type particulier et qui constituent, je crois savoir, l'ossature du documentaire que vous allez nous proposer dans la première heure de ce vif du sujet.
Écoutez, un phénomène magique, j'ai passé un seul coup de téléphone, Monsieur Lebas, qui organise des repas ufologiques tous les premiers mardis du mois à Paris.
Et ufologique,
UFO,
oui.
Unidentified Flying Object. Et cet homme m'a dit, écoutez, il y a une solution très moderne, très facile, Internet. Je vais dire que vous cherchez des témoins et je vais le lancer sur des listes ufologiques. Après ça, j'ai eu un tas de retours. Certains que je n'ai pas pu du tout rencontrer, comme un astronome à Chamonix, un autre, monsieur Jean-Louis Brodu, ethnologue que j'ai pu rencontrer mais qu'on n'entendra pas, madame Miro, pour qui notre enregistrement s'est mystérieusement volatilisé pratiquement, enfin n'était pas exploitable.
Madame Miro, il fallait l'inventer ça.
Et puis, ne soyez pas méchants, et puis d'autres témoins qui, vraiment, et je tiens à le dire, très librement et en toute bonne foi, m'ont raconté leur histoire, leur expérience subjective de ce territoire si mystérieux qui vous intrigue tant.
Alors ensuite, il a fallu, je suppose, prendre des distances, poser des jalons pour la compréhension plus technicienne, plus scientifique de ces phénomènes inexpliqués. Alors, je suppose que ce n'est pas du côté de Jacques Pradel, de Jean-Claude Bourret ou des frères Bogdanov, Boris et Igor, que vous vous êtes tourné pour ce débat qui suivra à partir de 16h, la diffusion de votre reportage.
Non, en fait, j'avais un petit souci parce que c'est un sujet qui fait rire. Et vous allez peut-être rire en écoutant le documentaire. Et j'ai trouvé dans un livre de Marie-Thérèse de Brosse une très bonne réponse à ce rire. C'est Valérie qui disait « Le rire, c'est un refus de penser ». Et effectivement, il fallait poser ce problème en termes de pensée. Et je me suis dit qu'après tout, il va y avoir en France des gens qui acceptaient de le penser, qui étaient prêts à voir les gens ricaner. Et aussi bien du côté de la science, avec Jean-Jacques Velasco, du côté de la littérature, avec Jean-Luc Rivera, du côté des ufologues, avec Gilles Dabourdet, et puis avec Marie-Thérèse de Brosse que j'ai citée, j'ai trouvé des gens qui acceptent de penser et qui veulent bien, avec moi, pendant une heure, penser ce phénomène.
Donc on retrouvera tous à partir de 16h pour l'heure. Donc il est temps de nous propulser en abandonnant peut-être notre rire ou le sourire pour ce voyage au pays des ovnis avec vous, toute cet après-midi, Irène Omelianenko, aux commandes de votre aéronef numérique François Test et Arthur Gerbeau.
Voyage au pays des ovnis.
C'est énorme. Jaune, la front jaune, avec des reflets rouges, elle commence à avancer là, je fais un zoom.
Quand vous vous trouvez confronté, caméscope en main, à une forme étrange dans le ciel, vous pouvez, comme Freddy Legrand, tenter de décrire, filmer et espérer être cru.
Je zoome complètement là.
Mais le film vidéo amateur est fragile.
Wow.
Les yeux rivés à son écran de télévision, j'ai vu trembloter une flamme dans le ciel qui aurait pu appartenir à un film expérimental sollicitant quelque esthétique poétique.
Je
mesurais alors la grande difficulté que pouvaient éprouver chercheurs et investigateurs à appréhender le phénomène UFO, Unidentified Flying Object, objet volant non identifié en français. Entre rêve et objet de science, n'est donc ce documentaire consacré à quatre expériences subjectives vécues par des témoins de bonne foi. Expériences pour la plupart solitaires, même si la France de novembre 1990 nous a prouvé l'inverse.
C'est sûr, c'est certain, je ne suis pas fou, je n'y crois pas, mais je vous assure, vous avez été hier soir, cette nuit, encore ce matin, d'est en ouest, de l'Alsace à la côte atlantique, très nombreux à nous téléphoner, à l'affirmer, à le jurer sur tout ce que vous avez de plus cher au monde. On en a vu. Écoutez plutôt.
Ça faisait pas de bruit. pas du tout, et puis c'était assez rectiligne et ça clignotait. Et c'est vrai qu'il y avait des lumières bleues, jaunes, un peu vertes, oui. Et à mesure que ça passait à côté de petits nuages, ces nuages se transformaient en espèce de halo lumineux. Ça formait un triangle.
C'était un truc assez énorme. Des points, ces points qui se déplaçaient. Ça ne marchait pas du tout vite. Hein.
Sur le coup, j'ai cru que c'était un avion qui volait très 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 bas et ça m'a étonné. Et j'ai vu effectivement que c'était quelque chose d'énorme. Venant du sud-ouest et allant vers le nord-est, des points lumineux, orange, dans une structure un peu d'un losange à plat, avec une traînée blanche, dans un silence complet. Je me suis dit, c'est pas possible, ça correspond à rien du tout de ce que je connais. J'en étais tout étonné. Hein.
Les ovnis sont une dimension de l'expérience humaine volontiers classée dans le bas de gamme intellectuel. Pour Bertrand Méheux, l'ethnologie, qui valorise complaisamment l'autre, mais chez les autres, ailleurs, manquerait cet extrême contemporain de l'altérité que représente l'alien. Le sujet est tabou et prêt à rire et ricanement. Il y eut pourtant en France une sorte de période insolite où le pays de Descartes réunissait un général d'armée, Lionel Max Chassin, et un ingénieur, René Fouéré, pour tenter une approche sérieuse de ces phénomènes à haute volatilité. Demeure de l'époque un témoin, ex-enseignante, Francine Fouéré.
Mon mari s'est intéressé à la question, à la fois à la science et aux problèmes psychologiques, aux problèmes spirituels. Et il avait quand même, il se disait que si les gens voyaient quelque chose, eh bien, il fallait étudier ces choses. Le général Chassin avait aussi, de son côté, dit, si les pilotes voient quelque chose, ce ne sont pas des andouilles, on étudie la chose. Et puis quand même, il y a eu un autre ingénieur, René Hardy, qui était un ingénieur de la société Matra, qui avait mis au point d'ailleurs les têtes chercheuses, n'était pas non plus un rêveur, et ils ont fondé le groupement avec toujours, comment je pourrais dire, pour une recherche scientifique du phénomène. Parce que, hélas, dans cette étude, vous avez des gens qui rêvent en disant « Oh, ils vont venir nous sauver » ou des choses comme ça. Nous, c'était pas notre problème. L'ingénieur de la Matra disait « Nos fusées, un jour, ça sera de la ferraille. » Regardons comment ça manœuvre, puis c'était des manœuvres extraordinaires, magnifiques, silencieuses, des allers-retours à angle droit, des choses qu'on ne sait pas faire sur Terre. C'est pour ça qu'on a pensé que si nous, on pouvait pas le faire sur Terre, ça venait d'ailleurs. Donc, ils se sont dit « Étudions ce phénomène » pour pouvoir nous donner des idées de recherche. Donc, ça s'est fondé en 1963, exactement en novembre 62. Et puis, pour tenir les membres au courant, on a fait une revue. Au début, ça s'appelait le bulletin du GEPA, et puis après, ça s'est appelé Phénomènes spatiaux.
Or, GEPA, il faut peut-être donner GEPA, le
sens. GEPA, c'est mouvement d'études de phénomènes aériens. C'est-à-dire que c'était des phénomènes aériens. Au début, c'était même marqué insolite. Après, on a mis le GEPA simplement. Et mon mari se souvenait de l'histoire de Wegener, la dérive des continents, où le pauvre est mort sans savoir que son idée était vraie, parce que les savants de l'époque ne l'avaient pas. Pour les météorites, ça a été la même chose. Il a fallu 150 ans pour reconnaître leur existence. Ils ne pouvaient pas voir des pierres qui tombent au ciel. Alors nous, on est donc en 2002. Il faut être très patient.
Alors, il y a pas vent ici, je sais pas, alors on peut y aller. Bon, ici, c'était un chemin de terre très étroit. Et puis, bon, on pouvait donc sortir par le devant. Là, c'est donc un lotissement de maisons, et puis, dont la maison, l'ancienne maison de mes beaux-parents. Et donc, moi, le 2 octobre 77, c'était un dimanche, je m'ennuyais. Et vers, 19h, 19h30, je sais plus, j'ai dit à ma femme, écoute, je vais monter ma lunette astronomique. Et puis je vais aller au bout du jardin, et puis je vais faire l'observation astronomique. En fait, à l'époque, je voulais mesurer les performances de ma lunette.
Excusez-moi, Freddy Legrand, vous faisiez quoi à cette époque? Vous étiez comme profession?
À l'époque, ici nous sommes à Auchel, et moi je travaillais en déplacement dans une usine sidérurgique de la région d'Alquerquoise. Et donc j'ai entendu vers 23h un bourdonnement. Mais un peu comme le crépitement, je sais pas si vous voyez, le givre sur les fils à haute tension, mais beaucoup plus fin, mais vraiment fin. Et puis je comprends pas, il y a un truc que je ne suis pas, c'est que j'ai pas réagi. Je réagissais pas. Et puis au bout de peut-être, je sais plus, j'ai pas mesuré le temps, peut-être une minute ou deux. Oh, facile 2 minutes. Hein. Oh, ouais. J'ai regardé ce poirier là. J'ai fait ça. J'ai mis un doigt, certainement l'index, dans l'oreille. Et puis, mais je vous assure que c'est vrai. Et puis j'ai dit, mais flûte, c'est quoi ce truc là? Mais d'où ça vient? Puis quand j'ai regardé ce poirier, dès que j'ai regardé la cime de ce poirier, il y a un disque, et après il y a un objet qui est passé au-dessus du poirier, tout doucement, mais vraiment d'une lenteur. Et puis en passant au-dessus de ce poirier, comme j'étais derrière, il est passé au-dessus de ma tête. Tranquillement, mais alors avec une aisance déconcertante, c'est dingue ce truc. Il est parti comme ça, tranquillement. Alors, c'est... sans s'arrêter, mais presque à l'arrêt, il s'est levé. Il y avait un léger tangage. Alors ça, je l'ai bien vu, hein. Un léger tangage. Et il est passé au-dessus du poirier. Et il est reparti, et puis il a fait un vol ascensionnel, mais légèrement ascensionnel, parce qu'il est passé au-dessus du monument mort, et là, il y avait un lampadaire, alors je l'ai bien vu, et j'ai vu, ce truc-là. J'ai pas vu de boulon, j'ai rien vu, hein. J'ai vu une coque, quelque chose de monobloc, comme on dit, de lisse, de compact, j'ai vu vraiment quelque chose, une soucoupe, quoi. Et sur le bord d'attaque, dans le sens du vol, il y avait un filet de lumière rouge, mais terne, très très terne. Et je suis resté combien de temps? Peut-être ensuite 5-10 minutes. J'étais trempé. Ah, je vous assure, j'étais trempé, hein, de la tête aux pieds.
De sueur?
Ah, j'ai dit, ouais, sueur froide. Des sueurs froides. Hein. J'avais des picotements partout, mais alors partout. Hein. Mais j'étais euphorique en même temps. J'étais euphorique parce que je savais que j'avais vu, j'étais en train de me rendre compte que j'avais vu quelque chose d'extraordinaire. Bien entendu, au début, on n'a pas cru. Et on me disait, non, tu racontes des conneries, il faut arrêter, n'importe quoi, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer comme tout. Mais je dis, non, c'est pas vrai, j'ai vu un ovni. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un chien, son nom c'était Sulky, il était toujours sur le devant, là. C'était un casse-pied, un braillard, mais alors, franchement, il nous embêtait celui-là. Et là, on l'a pas entendu. En fait, j'ai oublié de dire que pendant l'observation, on n'entendait plus rien. J'ai l'impression que la nature, elle était morte. J'entendais plus rien. On entend en général des petits bruits, le vent sur une branche, ou je sais pas moi, un oiseau, ou quelque chose, une moto au loin. Mais là, on n'entendait plus rien. Je vous assure, j'en entendais plus rien. Que ce bruit, que ce bourdonnement. Et puis, ensuite, tout est revenu à la normale. Et puis, mais j'ai aussi obligé de dire, c'est que j'avais tellement peur, c'est que c'est mon beau-frère qui est allé récupérer ma lunette. J'osais pas aller récupérer ma lunette.
Michael Lecomte, depuis plusieurs années, vous vous êtes intéressé de près à... on va dire l'histoire de l'ufologie, mais je suis pas sûre si le mot ufologie est le mot correct. Vous l'avez exploré dans plusieurs territoires. Vous vous êtes confronté, certainement comme nous le sommes, à un tas de témoignages. Des témoignages qui, à chaque fois, paraissent sincères. Et en même temps, dans lesquels on ressent beaucoup d'embarras, parce que faire de tous ces témoignages? Comment, à partir de là, élaborer une pensée sur ce phénomène des ovnis?
Oui, ça c'est la grande question. Il y a les choses qui m'a le plus étonné, c'est que il y a les ufologues donc d'une part, et puis il y a les sceptiques d'autre part. Les sceptiques, genre zététiciens, sont nos frères ennemis. Ça c'est une façon gentille de voir la chose, mais c'est surtout vu en tout cas par un certain nombre d'ufologues, nos adversaires. Et ce qui est intéressant, c'est que ces sceptiques, ils se sont aperçus que les témoins ne mentaient pas. Et ça, c'est quelque chose qui me fait très très plaisir. Les sceptiques ne doutent pas des témoins. Ils doutent de leur interprétation, mais ils sont convaincus, pratiquement, que ce ne sont pas des affabulateurs.
Dans l'ensemble, les témoins sont honnêtes. Je crois que je peux compter sur les doigts d'une main, et encore, ceux qui ont voulu vraiment tromper, faire des cafots, c'est pas joli ça, les cafots, monter des histoires. Autrement, dans l'ensemble, les témoins étaient toujours stupéfaits de ce qu'ils avaient vu. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est suivre les témoins dans le temps. Et quand on est retourné voir Maurice Mass, il n'a pas dit, moi je vous ai fait marcher, pas du tout. C'est toujours, qu'est-ce que j'ai bien pu, qu'est-ce qui m'est arrivé ce jour-là.
Racontez-nous, Francine Fouéret, l'aventure de Valensole, justement.
Elle a eu lieu le 1er juillet 1965. Ce matin-là, Maurice Mass se lève tôt pour aller vers son champ de lavande à Valensole. Et en arrivant là, il voit des petits bonshommes, comme il m'a dit, qui m'arrivaient au nombril. Maurice Mass n'est pas grand. Bon. Donc, il voit deux petits bonshommes accroupis sur un champ de lavande. Alors là, il s'est dit, moi je vais les estourbir. N'oubliez pas qu'il est du midi. Et il s'avance vers eux. Et puis il y avait un drôle d'engin, vous avez dit, ça avait la taille d'une dauphine. Quand il s'approche à une vingtaine de mètres de ces petits personnages, il y en a un qui se lève, qui braque une espèce de tube sur lui, et Maurice Mass se trouve immobilisé. Mais ce qui est extraordinaire dans cette espèce d'arme de lumière, comme a dit mon mari, c'est qu'il pouvait respirer et voir. Sinon, il ne pouvait plus vivre. Alors les autres l'ont regardé avec un sourire un peu bizarre si on peut dire. Et puis, ils ont rembarqué et c'est parti à toute allure. Il est resté 20 minutes immobile comme cela, en se demandant s'il allait remarcher un jour. Puis après, ça s'est passé et il n'a pas biné son champ ce jour-là. Il est donc allé au Café des Sports à Valensole. Et puis là, sous le coup de l'émotion, il a eu le malheur de le raconter à un ami. Alors comme ça, tout le village l'a su. Et il y a eu des enquêtes qui ont été faites, entre autres par le capitaine Balné de Digne, de la police de Digne. Toutes les enquêtes ont trouvé... En plus, il y avait eu une trace au sol. D'ailleurs, ce qui est intéressant, nous, ce qu'on a aimé, c'est les observations qui laissent des traces au sol. Mon mari a écrit d'ailleurs un article, « Les traces au secours du témoignage ». Parce qu'on a besoin du témoin pour dire ça s'est passé là, mais après on n'a plus besoin d'interroger le témoin pour savoir si la grand-mère était malade, d'amener le psychiatre de service, parce que tout de suite quand quelqu'un voyait quelque chose, il fallait qu'il aille voir un psychologue, c'était l'horreur. Tandis que là, les traces, on les a examinées maintes fois. Il y en a une qui est une observation qui est intéressante, parce qu'à Trans-en-Provence, c'est celle du 8 janvier 1981, en fonction de la trace au sol, marque sol, il y avait une dégénérescence des plantes. C'était pas le pauvre paysan qui a vu ça qui pouvait faire ce travail-là.
Il y a une chose que j'ai faite de pas trop bête, je crois avoir fait une seule chose de pas trop bête dans ma recherche, c'est d'avoir une idée saugrenue un jour de faire une recherche d'après les faux témoignages. Ça a étonné mes amis ufologues. Et l'intérêt, c'était de comparer ces faux témoignages, là je savais qu'ils étaient fous, parce que je les demandais comme tels, avec ceux qu'on supposait authentiques. Il y avait une grande différence entre les faux témoignages et les vrais. Qu'est-ce qui se passait dans les faux témoignages? C'était très raisonnable. On avait toujours affaire à des humanoïdes, donc forcément bipèdes, qui nous ressemblaient beaucoup, parfois qui avaient des scaphandres ou non, des appareils respiratoires. L'objet dans lequel ils se déplaçaient, c'était pratiquement toujours la typique soucoupe volante. Et le plus amusant, comme c'était tout, je l'ai fait en France, ils parlaient tous le français et très correctement. Et alors quand on compare avec les témoignages dont on peut supposer qu'ils sont vrais, dont moi je suis certain qu'ils sont vrais, c'est un autre monde. Là c'est plus pareil, il y a des êtres qui s'expriment par des grognements, par des sifflements, dans des langues incompréhensibles. Quant à l'humanoïde qui nous ressemble, c'est des cas. Il y a aussi tout un tas d'apparitions qui ne nous ressemblent pas du tout. Quant aux véhicules dans lesquels ils se déplacent, ça va, c'est à l'infini. Hein. Beaucoup d'ufologues considèrent que chaque témoin a son apparition faite sur mesure. Malgré tout, on retrouve toujours les bases, les constantes.